le magazine des Nations Unies.
Bonjour et surtout agréable condition d'écoute des programmes de Radio Kapi qui vous propose le magazine des Nations Unies. Voici les principaux titres. Désormais, les aspects VIH-SIDA seront intégrés systématiquement dans le plan de contingence des Nations Unies, et cela dès cette année 2023, résultat de nombreux plaidoyers auprès de ses partenaires humanitaires. Le programme national multisectoriel de lutte contre le SIDA, PNMLS, est très satisfait par cette réponse. La communauté humanitaire, profondément troublée par les graves atteintes aux droits internationaux humanitaires ces derniers temps, avec des combats au Nord Kivu. Dans un communiqué publié lundi dernier, le coordonnateur humanitaire en RDC, Bruno Demarquis, appelle toutes les parties au conflit au devoir de la protection civile. Bientôt, la fermeture du bureau de coordination des affaires humanitaires au Tchad au Grand Kassai, en prélude, une séance de vulgarisation de la politique nationale des actions humanitaires s'est tenue dimanche dernier à Mbujimayi. Objectif, faire comprendre aux services étatiques leur rôle dans la gestion des catastrophes. Le vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères et de la francophonie est l'invité de ce magazine. Voilà pour les titres.
Magazine des Nations Unies, actualité de la semaine.
Au Nord Kivu, la communauté humanitaire se dit profondément troublée par les graves atteintes aux droits internationaux humanitaires commises ces derniers temps avec les affrontements au Nord Kivu. Des combats ayant coûté la vie à de nombreux civils, dont des femmes et des enfants à Mweso. Un bombardement dans un quartier résidentiel le 25 janvier dernier a causé la mort de 19 personnes et blessé plus de 20 autres. Le coordonnateur humanitaire en RDC, Bruno Lemarquis, rappelle dans un communiqué lundi dernier à toutes les parties en conflit le devoir de la protection civile. Celle-ci ne saurait être la cible des combats. Cette population a le droit de recevoir le secours approprié, dit-il. Les détails avec vous, Denise Lukesso.
Selon OCHA, les conséquences humanitaires de l'intensification récente des violences sont alarmantes. Environ 8000 personnes déplacées internes ont trouvé refuge près de l'hôpital de Mweso, ce qui fait craindre les risques d'un nouveau drame si le combat s'intensifie à proximité de cette installation vitale qui doit être protégée selon les droits internationaux humanitaires. OCHA parle de plus de 250 000 personnes qui ont actuellement besoin urgent d'assistance humanitaire dans la zone de santé de Mweso. Dans ces communiqués, Bruno Lemarquis, le coordonnateur humanitaire, insiste qu'il est crucial de garantir la sécurité des travailleurs humanitaires et des civils afin de permettre que l'assistance leur parvienne et empêcher une aggravation de la situation humanitaire. Plus de 2,5 millions de personnes ont été déplacées au Nord Kivu à la suite des conflits. Et ces personnes ont un accès limité aux services de base, déplore OCHA. Goma, Denise Lukesso, Radio Kapi.
Au Kassai oriental, signalons la vulgarisation la semaine dernière à Mbujimayi de la politique nationale des actions humanitaires. Cet atelier organisé par le ministère des actions humanitaires intervient à quelques jours de la fermeture du bureau des affaires humanitaires au Tchad dans le Grand Kassai. Les responsables des services étatiques concernés par les actions humanitaires et les catastrophes, ceux des organisations nationales et internationales ainsi que des représentants des agences du système des Nations Unies ont participé à cet atelier d'un jour. D'après le secrétaire général du ministère de tutelle, le but de cet atelier a été de faire comprendre aux services étatiques leur rôle dans la gestion des catastrophes. Alain Yeti, secrétaire général au ministère des Affaires humanitaires, explique au micro d'Esther Dalafina.
Nous la vulgarisons dans ces contextes, notamment dans le Kassai, parce que, vous savez, la situation est devenue stable. Le bureau des Nations Unies en charge des affaires humanitaires doit fermer. Et c'est ce bureau qui aidait l'État dans la coordination. Maintenant, il faut que les services étatiques montent au créneau pour reprendre le travail de coordination. La première chose, c'est que les acteurs doivent connaître le rôle, les attributions, les outils qui existent, et puis les attitudes et les pratiques qui permettent d'avoir une bonne coordination. La coordination voudrait dire qu'on doit être ensemble pour identifier le besoin, on doit être ensemble pour mener les évaluations, être ensemble aussi pour mobiliser des ressources et rendre compte. Alors si cela est fait, nous avons dit que c'est la responsabilité de l'État qui doit mettre le moyen à la disposition de ses services. C'est ce qu'on appelle le renforcement de l'autorité de l'État qui va avec les capacités techniques mais aussi les moyens pour faire le travail sur terrain.
Autre actualité dans ce magazine, en Ituri, une centaine de jeunes de la ville de Bunia s'engagent à vulgariser le message de paix et de cohésion sociale dans leurs communautés respectives, cela pour combattre efficacement les discours de haine qui sont à l'origine des violences dans cette province. Ils ont pris cet engagement la semaine dernière au cours d'un salon d'échange organisé par la plateforme des jeunes U-Reports de l'UNICEF. Ils exhortent d'autres jeunes qui ont pris des armes contre la RDC à renoncer à la guerre qui freine le développement de la province. Explication à Bunia avec Ézéchiel Mousalia.
Place et rôle de l'éducation dans les discours de haine, c'est le thème autour duquel des échanges ont tourné entre différents intervenants et les jeunes, notamment sur l'historique des conflits qui perdurent en Ituri. Pour le professeur Wai Alégué, enseignant à l'université Shalom de Bunia, les jeunes doivent mettre de côté toute forme de manipulation tendant à discréditer leurs semblables. C'est entre autres à travers l'utilisation des réseaux sociaux qui constituent un moyen par excellence de propagation des fausses informations.
Quand la jeunesse ne peut pas aller à la guerre, elle est active sur le smartphone. Si vous voyez les discours, les stickers qu'ils sont en train de propager, montrent déjà que la haine est déjà dans leur tête et dans leur esprit.
Les participants saluent cette démarche qui, selon eux, renoue une fois de plus un esprit de confiance mutuelle entre eux, ainsi que des cohésions sociales, gage du développement de cette province.
Ce qui est capital, c'est d'abord s'accepter entre nous et puis accepter toutes les communautés ituriennes telles quelles.
Je m'engage à sensibiliser ma communauté à pouvoir être des acteurs de changement positif.
Il y a toujours des conflits, mais on doit savoir comment gérer ça, surtout nous les jeunes avec les réseaux sociaux.
Signalons que U-Report est une plateforme de messagerie sociale mise en place par l'UNICEF qui compte à ce jour plus de 1000 jeunes à Bunia. Bunia, Ézéchiel Mousalia, Radio Okapi.
Le magazine des Nations Unies.
Magazine des Nations Unies. Le magazine des Nations Unies, tout sur les faits saillants des agences du système des Nations Unies. Chaque dimanche à 8h30 et en rediffusion à 19h05.
Les aspects VIH-SIDA seront intégrés systématiquement dans le plan de contingence des Nations Unies de cette année 2024. C'est à la grande satisfaction du PNMLS qui a longtemps plaidé auprès des partenaires humanitaires. L'ONU-SIDA, en collaboration avec l'UNHCR, OMS, PAM, le Fonds des Nations Unies pour la population UNFPA et le PNUD, a appuyé le gouvernement provincial du Nord Kivu dans la production d'un plan d'action opérationnel multisectoriel VIH-SIDA qui intègre la réponse humanitaire. Cela a été dit au cours d'un atelier de 3 jours clôturé mardi dernier à Goma. Denise Lukesso.
Place et rôle de l'éducation dans les discours de haine, c'est le thème autour duquel des échanges ont tourné entre différents intervenants et les jeunes, notamment sur l'historique des conflits qui perdurent en Ituri. Pour le professeur Wai Alégué, enseignant à l'université Shalom de Bunia, les jeunes doivent mettre de côté toute forme de manipulation tendant à discréditer leurs semblables. C'est entre autres à travers l'utilisation des réseaux sociaux qui constituent un moyen par excellence des propagations des fausses informations.
Quand la jeunesse ne peut pas aller à la guerre, elle est active sur le smartphone. Si vous voyez les discours, les stickers qu'ils sont en train de propager, montrent déjà que la haine est déjà dans leur tête et dans leur esprit.
Les participants saluent cette démarche qui, selon eux, renoue une fois de plus un esprit de confiance mutuelle entre eux, ainsi que des cohésions sociales, gage du développement de cette province.
Ce qui est capital, c'est d'abord s'accepter entre nous et puis accepter toutes les communautés ituriennes telles quelles.
Je m'engage à sensibiliser ma communauté à pouvoir être des acteurs de changement positif.
Il y a toujours des conflits, mais on doit savoir comment gérer ça, surtout nous les jeunes avec les réseaux sociaux.
Signalons que U-Report est une plateforme de messagerie sociale mise en place par l'UNICEF qui compte à ce jour plus de 1000 jeunes à Bunia. Bunia, Ézéchiel Mousalia, Radio Okapi.
Magazine des Nations Unies. Décryptage.
Le magazine des Nations Unies reçoit dans ce premier entretien l'acteur politique congolais Josué Boji. Il anime à partir du Sud Kivu une dynamique pour la mise en place d'une politique salariale en RDC avec comme objectif de lutter contre les inégalités salariales au sein de l'administration publique. Josué Boji s'entretient à Bukavu avec Jean Kassami.
Josué Boji, bonjour.
Bonjour.
Vous mettez en place une dynamique à dénoncer les inégalités sociales observées au sein de la communauté congolaise. Quelle est la motivation qui vous a poussé à en arriver là?
Particulièrement les inégalités salariales et notamment au sein de l'administration publique. Parce que l'administration publique, c'est l'ossature de notre État. Et tant que nous ne payons pas correctement les agents de l'État, d'administration, nous ne pouvons pas avoir une administration capable de conduire notre pays au développement. Donc nous sommes bloqués. Quand vous voyez les salaires des enseignants, des policiers, les salaires de base qui sont à moins de 100 dollars et que vous voyez que les députés qui sont l'autorité budgétaire arrivent à 33 000 dollars, c'est quand même excessif. Et en tant que Congolais, soucieux de l'avenir de notre pays, des générations futures, nous ne pouvons pas continuer dans cette voie. Et ça va faire plus de 3 décennies que nous vivons comme ça. L'administration publique a été clochardisée. Et c'est un problème sérieux. On ne peut pas conduire un pays comme ça avec une administration qui n'est pas prise correctement en charge, avec une police qui n'est pas prise correctement en charge. La sécurité des citoyens, comment on va l'assurer? La formation des élites de demain avec nos enseignants clochardisés, comment on va l'assurer? C'est-à-dire pour nous, c'est un problème existentiel pour la nation. Et bon, en tant qu'acteur sociopolitique, donc cette dimension m'a paru importante à soulever parce que pour nous, ce n'est plus un problème politique, c'est un problème de société. Donc on n'est pas dans un cadre d'un débat politique, mais plutôt d'un débat social.
La séance qui vient de se clôturer, c'est la première du genre. Qui avez-vous convié et pour quelle raison avez-vous ciblé XY?
Vous savez, la société civile du Sud Kivu est emblématique. Hein. Donc, de tout temps, elle a toujours été, disons, en avance ou bien en éveil pour des problèmes cruciaux de la nation congolaise. Et c'est pour cela que j'ai fait référence à cette société civile et j'ai trouvé des personnalités assez dynamiques et qui ont directement compris la pertinence de cette question. Et la société civile s'est appropriée cette action et qui m'a demandé juste l'accompagnement technique parce que j'avais les éléments techniques par rapport à la mise en place d'une politique publique salariale qui peut corriger ce problème que nous connaissons aujourd'hui. Et ils ont simplement souhaité que cet accompagnement technique je puisse faire, mais ils se sont appropriés et ils sont prêts à aller jusqu'au bout. Et
à l'issue de la toute première rencontre, quel est votre sentiment?
En tout cas, de satisfaction, parce que la majorité des, pratiquement toutes les personnes ciblées, qui sont des acteurs sociopolitiques ici, économiques surtout, de la province, ont répondu présent. Et ça m'a vraiment touché de voir tous ces sommités se déplacer, aussi bien du corps professoral, voir le bâtonnier Maître Luango se déplacer jusque-là, voir des professeurs comme Chira et beaucoup d'autres personnalités emblématiques de notre province. Moi, en tout cas, ça m'a positivement impressionné.
Quelle est la méthodologie que vous mettez en place pour que vos lamentations parviennent à qui de droit?
Nous avons mis en place des stratégies ici qui sont encore à l'étude, donc nous allons y travailler. Et nous pourrons revenir vers vous pour vous présenter qu'est-ce que l'Assemblée d'aujourd'hui a recommandé comme procédure pour arriver justement à changer cet état des choses au sein de notre société.
Vous partez du Sud Kivu, comptez-vous arroser tout le pays?
Avec les animateurs de la société civile du Sud Kivu, ils se sont chargés, ils ont dit eux-mêmes, ils vont prendre contact avec la société civile de l'ensemble des provinces de notre pays, de manière à ce qu'ils reprennent ce combat, parce que c'est un combat de société et qui concerne avant tout notre société, donc en général dans sa majorité, et aussi bien au Sud Kivu que dans les autres provinces.
C'est qui la cible finale de votre mémo, si on peut parler en termes de mémo?
En principe, la première cible, la cible principale, ce sont les députés nationaux. Parce que ce sont eux qui assument, parmi leurs assignations, le rôle d'autorité budgétaire. Donc, c'est eux qui votent la loi budgétaire. Et c'est de cette loi budgétaire-là que découlent les salaires qui sont payés aux enseignants, à la fonction publique, partout. Donc, ils ont cette responsabilité et c'est à eux qu'il revient de voter une loi mettant en place une politique publique salariale pouvant corriger toute cette inégalité salariale que nous constatons dans notre pays.
Josué Boji, nous vous disons merci.
Merci beaucoup.
Le plan minimum absolu du PAM pour 1,5 million de personnes les plus vulnérables est confronté à un besoin de financement net de 381,2 millions de dollars américains pour les 6 prochains mois, chiffre dévoilé dans un article publié mardi dernier. Mais pour maintenir nos opérations plus larges, nous avons besoin de 567,8 millions de dollars américains, a ajouté le PAM. Les femmes vivant dans des camps de personnes déplacées ont le choix impossible de laisser leur famille avoir faim ou de faire face à la violence sexuelle alors qu'elles sont à la recherche de nourriture et du bois de chauffe. D'autres passent à des stratégies dangereuses telles que la prostitution pour survivre. Une aide alimentaire régulière est prévisible pour atténuer certaines de ces stratégies de survie. Le PAM souligne avec force les liens entre l'insécurité alimentaire et les risques élevés de protection auxquels les femmes sont confrontées dans l'est de la RDC. S'il est essentiel de fournir une aide alimentaire et de répondre à d'autres besoins tels que les abris, l'eau et l'assainissement, il est nécessaire de mener un plaidoyer commun, de trouver des solutions intégrées et de mettre en place des programmes avec de nombreux partenaires et parties prenantes, a conclu le PAM. Le système des Nations Unies a entamé les travaux de la revue 2023 de son cadre de coopération avec la République démocratique du Congo. Pour rappel, en fin 2019, le système des Nations Unies, SNU en RDC, a signé avec le gouvernement congolais un cadre de coopération pour le développement durable couvrant la période 2020-2024. Ce cadre constitue la réponse collective du système des Nations Unies en appui aux priorités nationales inscrites dans le plan national stratégique de développement PNSD. Il contribue aux efforts de la RDC à réaliser les objectifs de développement durable ODD. 23 entités du système des Nations Unies, agences, programmes et institutions spécialisées ont apporté leur appui aux institutions et aux populations congolaises dans divers domaines. Il s'agit entre autres de l'éducation, la santé, la protection des populations vulnérables, la sécurité alimentaire et autres. Cela sous la forme d'appui direct ou d'appui aux politiques sociales et aux réformes institutionnelles. C'est ce qu'indique le bureau du coordonnateur résident des Nations Unies dans une note de presse rendue publique jeudi dernier.
Magazine des Nations Unies, l'invité.
Le magazine des Nations Unies reçoit comme invité Christophe Lutundula, vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères et de la Francophonie. Dans un extrait de la conférence de presse conjointement animée à Kinshasa avec Madame Bintou Keïta, représentante spéciale du secrétaire général des Nations Unies et chef de la MONUSCO, il s'est appesanti sur le processus de désengagement de la mission onusienne en République démocratique du Congo. Suivez.
Nous avons accepté le concept de retrait progressif. Ce n'est pas pour rien que nous avons un plan qui est séquencé, assorti de l'évaluation. Le gouvernement s'est penché sur la conditionnalité de la réussite du retrait de la MONUSCO au Sud Kivu. Pour être plus précis et concret, nous avons arrêté des dispositions, nous avons arrêté un programme précis de relève qui impliquera certainement le renforcement de la police nationale, de sécurité et des forces armées de la RDC. Cela est en mouvement. C'est pour ça que je vous ai dit que le retrait a déjà commencé. Et si vous lisez la résolution, ceux qui en auront le temps, 27-17, vous trouverez qu'il y a des pans entiers de cette résolution consacrée par le Conseil de sécurité sous la question de la continuité de la sécurité et de la paix et a axé sur l'appui des Nations Unies, l'appui à la RDC, aux efforts de la RDC, et l'appui aux communautés régionales qui sont avec nous dans ce combat contre l'agression rwandaise. Donc, on peut dire beaucoup de choses là-dessus. Je voudrais tout simplement rassurer les compatriotes, au nom du président de la République et du gouvernement, que nous n'allons pas lâcher prise, que nous allons continuer nos efforts, et qu'on le veuille ou non, le Congo, pendant ses mandats et le plus rapidement possible, va retrouver la paix, la sécurité, la stabilité à l'Est pour qu'ensemble, nous pouvons marcher vers le progrès, vers la démocratie comme un seul homme. Voilà la réponse que je peux vous donner sur la question après le retrait de la MONUSCO. Nous ne devons pas avoir peur de prendre nos responsabilités. Le retrait a commencé. Vadine, qu'est-ce que le vice-premier ministre raconte là? On est encore dans les discours, dans les liminaires. Non, le retrait a commencé dans ce sens que nous sommes à pied d'œuvre, comme convenu, pour fixer les modalités pratiques et pour essayer d'amorcer graduellement, mais certainement, le processus de manière, comme je vous ai dit, à ne pas perdre le pied à un moment ou à un autre. Donc, on a commencé le retrait. Le retrait séquencé sur l'ensemble de l'année 2024, de sorte que la première étape va de maintenant jusqu'au mois d'avril. Nous allons faire l'évaluation, c'est prévu. Après le mois d'avril, nous arrivons à une évaluation que moi j'appelle politique et stratégique au mois de juin. Et on verra déjà, à partir du mois d'avril, s'il faut passer, parce que nous commençons avec le Sud Kivu, elle va vous donner un peu plus de détails, s'il faut passer à la province du Nord Kivu ou de l'Ituri, selon les données de l'évaluation que nous aurons à ce moment-là, de manière que après Ituri ou Nord Kivu, nous puissions nous retrouver avec la dernière province, et dans tous les cas, tout doit être fait pour que, à la fin de cette année, nous puissions, si j'ose le dire, nous retrouver, en fait, nous féliciter mutuellement, pour remercier les Nations Unies qui ont fait un travail, parce qu'on ne sait jamais ce que serait le Congo sans la MONUSCO, personne ne peut me le dire, et pour, ensemble, consolider les perspectives que nous aurons tracées et les mettre en œuvre, car il n'y a pas de Congo sans Nations Unies et il n'y a pas de Nations Unies dans sa configuration actuelle sans le Congo.
Revenons au Nord Kivu, notamment à Beni, pour parler de cette formation en informatique qui a débuté mardi dernier à l'intention du personnel administratif de la prison de Kambayi. Elle est organisée par l'unité d'appui à l'administration pénitentiaire de la MONUSCO. À l'issue de la formation, les bénéficiaires vont devoir former à leur tour tous les détenus pour leur intégration sociale. Sadiq Aboubakar pour plus de détails.
Les bénéficiaires de cette formation sont entre autres des greffiers, secrétaires et autres membres de l'administration pénitentiaire de la prison de Kangbaï. Il s'agit d'un personnel que la MONUSCO a déjà outillé par le passé avec dons de matériel. Ces recyclages visent donc à renforcer leurs capacités, notamment en termes de gestion des bases de données. C'est ce que dit Tsongo Makelele, directeur de la prison de Kangbaï.
Au niveau de la prison, on doit initier la base de données qui est informatisée. Après cette formation, ce sont encore ces mêmes personnels qui reformaient certains détenus qui ont été sélectionnés au niveau de la prison des femmes et au niveau des légers. Et c'est toujours dans les soucis de la réinsertion des détenus.
Mais quel est l'objectif poursuivi par la MONUSCO dans ses activités? Abdourahmane Ganda, chef adjoint de la MONUSCO Beni, explique.
C'est de rendre le milieu carcéral conforme aux normes internationales. Comme on le dit aussi souvent, dans ce siècle-là, l'illettré, c'est pas celui qui sait pas lire ni écrire, mais c'est celui qui ne maîtrise pas l'outil informatique.
Nembongo Hussein, chef de service urbain de la formation professionnelle, appelle les apprenants à saisir cette opportunité pour concrétiser l'objectif du projet, qui est de rendre les anciens détenus utiles dans la communauté pour leur réinsertion. Beni. Sadiki Aboubakar, Radio Okapi.
Magazine des Nations Unies. Question aux Nations Unies.
Quel serait le sort des milliers de déplacés dont la survie dépend dans la plupart des cas des bases de la MONUSCO après son départ? Est-ce qu'il y a une stratégie, il y a une suggestion ou quelque chose qui est prévu pour leur protection? Madame Bintou Keïta a répondu à cette interrogation lors de la conférence de presse conjointe avec le gouvernement congolais. Suivez.
La situation des personnes déplacées internes. Nous en avons presque maintenant 7 millions de personnes déplacées internes, dont si on regarde l'Est, c'est à peu près 5,5, si je ne me trompe. Hein, je regarde sous contrôle de mes adjoints. Et là, je crois que si le lieu, dans la volonté des bonnes résolutions de début d'année, de demander à ce que tous les groupes armés, mais vraiment tous les groupes armés, arrêtent et déposent les armes. Il y a le programme de désarmement, démobilisation, réintégration à base communautaire et stabilisation qui existe. Et je pense que l'accélération de la mise en œuvre aussi de ce programme, en dehors de théâtre qui est celui du Nord Kivu, sera tout aussi important pour améliorer les conditions, pas seulement en termes de prise en charge humanitaire, mais de faire en sorte que l'aspiration de ces personnes déplacées, c'est de pouvoir retourner chez eux, chez elles. Et ça, ça ne peut se faire que s'il y a la paix. Et je ne pense pas que c'est un bon narratif pour la RDC d'avoir ce nombre absolument faramineux.
Le magazine des Nations Unies.
Magazine des Nations Unies. Le magazine des Nations Unies, tout sur les faits saillants des agences du système des Nations Unies. Chaque dimanche à 8h30 et en rediffusion à 19h05.
Trois dates à retenir dans vos agendas pour la semaine qui commence. Le 6 février, c'est la journée internationale de tolérance zéro à l'égard des mutilations féminines. Le 10 février, la journée internationale de légumineuses et la journée internationale des femmes et filles de science intervient le 11 février. C'est la fin de cette émission à retrouver sur www.radiocapi.net. Merci de votre attention. Merci également à Tarsis Mukendi pour la coordination technique. Babel Pongo Massimango au micro. Jeff Opel à la production, coordination et réalisation. À dimanche prochain pour un nouveau numéro de votre magazine. Merci de continuer à suivre la fréquence de la paix.